Quand on parle de champ de bataille, on imagine tout de suite des tranchées ou des armes. Mais en ce mois d'avril 2026, l'un des conflits mondiaux les plus intenses se joue vraiment en silence.
Ouais, c'est ça, dont de gigantesques salles de conférence, en fait. Et le centre névralgique de cette guerre d'influence, c'est l'UNESCO.
Exactement. Et c'est justement la mission de notre deep dive d'aujourd'hui. On va éplucher un rapport exhaustif récent pour vraiment décrypter l'architecture de cette organisation. Parce que c'est pas du tout juste une gardienne de monuments.
Non, pas du tout. Elle traverse une zone de turbulences financières et géopolitiques vraiment sans précédent.
C'est fou, parce que dans l'esprit des gens, l'UNESCO, c'est le patrimoine mondial. On pense aux pyramides ou, tiens, aux fascinantes minières néolithiques de Spienne en Belgique, dont parle le rapport.
C'est sûr, c'est l'image d'Épinal. Mais son véritable pouvoir, il s'exerce dans des domaines super inattendus. Par exemple, c'est eux qui coordonnent le système d'alerte au tsunami qui a été déployé après 2004.
Ah ouais, le système mondial.
Voilà. Et plus récemment, en 2022, ils ont carrément établi la toute première recommandation éthique mondiale sur l'intelligence artificielle.
Attendez, dicter les règles de l'IA à l'échelle mondiale, c'est énorme. En fait, l'UNESCO, ça fonctionne un peu comme le système d'exploitation de la planète.
C'est une super bonne analogie.
Ça tourne silencieusement en arrière-plan pour maintenir un socle éthique et scientifique commun.
Absolument. Mais ce système d'exploitation, il touche aussi à la sécurité de l'information. Les chiffres du rapport sont glaçants, avec plus de 1800 journalistes tués depuis 1993.
Oh mon Dieu!
Et le pire, c'est que 86% de ces crimes restent totalement impunis.
86% d'impunité, c'est vertigineux. Mais du coup, ce fameux système d'exploitation mondiale, il a besoin de ressources pour tourner. Et son modèle financier est en pleine crise, non?
En chute libre même. Le nouveau directeur général, M. Khaled El Enani, qui a été élu fin 2025, affronte ce qu'on appelle une projectisation de l'aide.
Une projectisation, c'est-à-dire...
En gros, les donateurs fuient le budget régulier pour financer uniquement des projets spécifiques. Aujourd'hui, 74% de l'aide bilatérale fonctionne comme ça.
Donc si je comprends bien, l'aide devient un peu un menu à la carte au gré des envies des donateurs, mais ça condamne pas automatiquement les crises moins médiatisées à l'oubli total, ça.
C'est exactement le danger. Et en parallèle, le rapport souligne que l'aide globale à l'éducation pourrait chuter de 25% d'ici 2027.
Waouh, un quart du budget en moins. Et cette fragilité financière, elle est directement aggravée par une volatilité diplomatique extrême.
Oh oui. Surtout si on regarde la relation avec les États-Unis. C'est un vrai cas d'école de cette instabilité.
Oui, pour rester strictement impartial sur les faits, en 2011, l'admission de la Palestine a déclenché une loi américaine. Et ça a coupé net 22% du budget de l'organisation.
Exactement. Une vraie secousse. Ensuite, il y a eu un retrait complet sous Donald Trump, puis un retour sous Joe Biden.
C'est les montagnes russes?
Totalement. Et là, en juillet 2025, la nouvelle administration Trump a formellement notifié un nouveau retrait pour décembre 2026.
C'est vraiment un jeu de Jenga géopolitique, en fait. On retire le plus gros bloc et ça fragilise tout l'édifice normatif. Mais quelles sont les raisons invoquées cette fois pour ce départ?
Les documents officiels citent la doctrine America First. Ils dénoncent un agenda qu'ils jugent mondialiste et parlent d'allégations de biais anti-israéliens.
Des biais que l'UNESCO réfute fermement, d'ailleurs.
Tout à fait. Ils s'en défendent catégoriquement. Mais le fait est que cette absence, ça ouvre une fenêtre d'influence majeure pour d'autres puissances comme la Chine.
La nature a horreur du vide, comme on dit. La Chine pourrait très bien en profiter pour imposer ses propres règles. Et tout ça nous montre que comprendre l'UNESCO, c'est finalement comprendre qui écrit les règles mondiaux de demain.
Que ce soit sur la technologie, l'éducation ou même la vérité historique, oui.
Absolument. Ce qui m'amène à une dernière réflexion pour clôturer ce deep dive. Si les grandes puissances continuent de se retirer pour créer leurs propres standards isolés de leur côté, est-ce que le concept même de valeur universelle, ce principe magnifique qui a fondé l'organisation en 1945, a encore un sens au XXIe siècle? Je vous laisse méditer là-dessus.